Albert Sim, Feu Lavignon. Ce soir-là, Philippe Lavignon, cocher du numéro 18532 de la métropolitaine, décida de ne pas rentrer chez lui. 3 heures durant, il avait, verre en main, fêté la rencontre d'un pays. Il se sentait légèrement ému, oh, très légèrement, une petite pistache de rien du tout. Mais enfin, il n'avait pas pressé d'affronter la colère de la bourgeoise, d'entendre Madame Séraphine Lavignon clavauder, piailler, piailler en plus finir. Qu'elle n'était pas commode, Séraphine, ou Proserpine, comme il l'avait nommée. Pas endurante, oh Dieu non! Jamais n'avait voulu le comprendre, lui, jamais! Toujours des reproches, des semons, des jérémiades, des bousculades. Et son argent qu'elle lui chipait. Allez, non, pas de scène ce soir, je veux être tranquille. Mais ce soir-là, ni le lendemain, ni la nuit suivante, le cocher Lavignon aurait un grain de logis. Inquiète de cette absence insolite, Madame Lavignon s'en fut dès l'aube, après cette seconde nuit d'attente au dépôt de la métropolitaine, rue de Tocqueville, et s'enquit de son mari. Là non plus n'était pas rentré. Et justement, madame, nous allions renvoyer chez vous pour avoir de ses nouvelles. Quelques heures plus tard, la compagnie l'informait qu'on venait de trouver la voiture de Lavignon abandonnée, ainsi que le cheval, sur la berge de la Seine, à Billancourt. Il ne s'agissait donc plus seulement, comme elle l'avait pensé d'abord, d'une ripaille plus prolongée que les précédentes. Un malheur accident ou crime était à réécouter, et c'était probable. Vite, elle courut à la préfecture de police, puis de là à la morgue. Le corps de Philippe Lavignon était étendu sur une dalle. C'était bien lui, hélas. Elle le reconnut d'emblée, quoiqu'il eut le visage meurtré d'ecchymose et tuméfié. Oui, c'était bien ce pauvre Philippe. On l'avait retiré de l'eau le matin même. Si altéré et gobeloteur qu'il fût, la perte d'un époux ne va point sans soupir. Et Séraphine Proserpine consacra bien 6 semaines à soupirer après son défunt et surtout à se douloir sur son propre sort, à elle, son veuvage et sa misère. 6 semaines, oh, c'était certainement plus qu'il le méritait, l'incorrigible ivrogne. Au bout de ce temps, elle commença à rechercher quelques secours et consolations auprès d'un voisin, d'un ouvrier ferblantier dont elle blanchissait et raccommodait le linge, et qui avait été l'ami de Feu Lavignon. À l'opposé de celui-ci, Francis Lacotte était d'une sobriété exemplaire. Souvent même, il lui était arrivé de faire la leçon à Lavignon. « Oui, oh, Philippe, t'es pas raisonnable, mon vieux. Te flanquer dans des états pareils. Ta bourgeoise bougonne, ça se comprend. Il y a de quoi, vrai. » Et c'est toujours lui qui s'efforçait ensuite d'apaiser le courroux de Proserpine et de remettre la paix dans le ménage. Et non seulement Francis Lacotte était sobre et rangé, mais encore c'était un travailleur, gagnant de grosses journées, ne chômant presque jamais, et facile à mener avec cela, ni colère, ni criard, ni brutal, une bonne patte d'homme, tout à fait, plutôt même trop doux, voire un peu simple. Mais aux yeux d'une gaillarde comme Proserpine, qui tenait à garder la bourse et porter la culotte, ce sont pas là des défauts, bien au contraire. Le ciel, qui n'avait pas béni l'union de Philippe Lavignon, se montra plus clément quand Francis se fut substitué au défunt et eut hérité de sa veuve. 18 mois après la mise en terre de l'infortuné Pochard, Séraphine donnait le jour à un vigoureux petit bonhomme qui ressemblait à son papa comme une goutte d'eau microscopique ressemble à une autre goutte d'eau volumineuse. Dans leur empressement à se consoler, à se réconforter, Madame Veuve Lavignon et le voisin Francis avaient négligé au préalable d'aller solliciter la permission de Monsieur le maire, et implorer la bénédiction de monsieur le curé de leur paroisse. Il n'en était pas moins heureux pour cela, et Francis Lucotte n'en avait pas moins la forme intention de reconnaître comme sien le produit de ses œuvres et de donner son nom à l'enfant de Séraphine. Le matin du jour où, sortant du bureau de la mairie, il venait en compagnie de deux camarades d'atelier comme témoins, et tout fier, radieux et triomphant de déclarer la naissance de ce futur citoyen et de s'en proclamer l'auteur, comme on en fait en l'honneur d'un tel événement, vidé plusieurs litres déjà et que les jambes commençaient à mollir, quand outre l'heure pressait de se rendre au travail, on résolut de faire la course en voiture. Et Francis avisa un fiacre en station, tout près de là, le long du boulevard des Batignolles. Il ouvrit la portière, invita ses témoins à s'asseoir, et levant la tête, donna l'adresse à l'automédon. Mais soudain, sa langue se paralysa, ses yeux s'écarquillèrent, il demeura cloué sur place, bouche béante. C'était Lavignon, Philippe Lavignon en personne, qui se trouvait sur le siège. « Ben oui, c'est moi, ça t'épate, hein ? Pas tant de manières, ben bon donc, Francis. »« C'est ça, » reprit Lavignon. « Allez, nous y sommes. Hu ! Cocotte !» Arrivé à destination, comme les trois hommes descendaient de la voiture et que Francis, encore tout ahuri, tout effaré, éberlué, fouillait dans sa poche, cherchant sa monnaie. « Pas la peine, fiston, tu vas payer un verre, et puis ça te fera la rue Michel. »« Tiens, entrons là, » ajouta Philippe, « je connais le patron. » Et comme on achevait de trinquer devant le comptoir, « Alors, tu ne veux plus d'elle ?» hasarda Francis. « Tu ne la reprendras plus. »« Pourquoi faire ?» T'es content comme t'es, n'est-ce pas, Francis? Moi, et tout, eh ben alors, à quoi bon changer? Aller reprendre ma succession? Non, ben viens, restons comme ça. Bien des choses à première pine, lança-t-il, après avoir assemblé ses guides et en cinglant cocotte.